l'actualité résonance sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Résonance, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Gendarme, Irène Cerchetti et Jean-Marie Fouilleul qui viennent nous présenter et nous jouer une proposition de lecture musicale autour d'un texte de Keiji Nakazawa, « J'avais 6 ans à Hiroshima », publié en 1995, une lecture musicale où Michel et Irène seront à la lecture-voix et Jean-Marie Fouilleul au sakuachi, la flûte japonaise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de venir dans nos studios nous proposer donc cette lecture musicale en direct sur les ondes d'Univers et sur le www.radio-univers.com. Avant de retrouver justement cette lecture, cette performance que vous allez nous proposer durant ces 35-40 minutes, hein, me semble-t-il, eh bien, j'aimerais vous poser quelques questions autour de ce texte, de cette lecture, de la manière dont vous l'avez monté aussi, vous la proposez aux gens. Tout simplement, voilà, pour commencer, c'est un texte de, comme je le disais dans la présentation, de Keiji Nakazawa. J'avais 6 ans à Hiroshima, tout simplement. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce texte ? À quelle occasion l'avez-vous notamment adopté, ce texte, pour le lire ?
Oui, c'est une lecture que nous proposons depuis une vingtaine d'années avec d'autres lecteurs ou d'autres lectrices, un ou une musicienne, parfois un danseur ou une danseuse, à différentes occasions, et surtout pour rappeler et ne pas oublier ce qu'ont été ces catastrophes, ces deux explosions atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, que pour la première fois, un gouvernement américain a sciemment fait exploser sur ces deux villes dans le cadre d'une guerre pour tuer effectivement plusieurs dizaines de milliers de personnes d'un coup. Donc voilà, on a repris cette lecture depuis peu à l'occasion des 80 ans, de la commémoration en tout cas, des 80 ans de ces deux explosions qui ont eu lieu le 6 août et le 9 août 1945.
Est-ce que vous pourriez nous présenter l'auteur de ce texte ? J'avais 6 ans à Hiroshima. C'est un texte témoignage ?
Oui, c'est un texte témoignage. Keiji Nakazawa est décédé il y a quelques années. Il avait donc effectivement 6 ans à Hiroshima. Il a vécu ça avec son esprit et son regard d'enfant. Il était à quelques kilomètres de l'épicentre de l'explosion. Et il a toujours, dès qu'il a pu, chercher à témoigner de ce qu'il avait vécu et de ces horreurs qu'il avait ressenties et croisées autour de lui. Le livre « J'avais 6 ans à Hiroshima », nous en avons extrait voilà, des passages les plus significatifs pour en faire une lecture. Hein. Il ne s'agit pas de tout le livre. Hein.
Keiji Nakazawa est devenu auteur et illustrateur de bandes dessinées, les fameux mangas japonais qui avaient déjà beaucoup de succès dans les années 60 au Japon, avant qu'on les découvre ici. Et dans ces bandes dessinées, il a également témoigné, il a mis en scène un enfant après les explosions. Donc c'est pas exactement le texte, mais en tout cas, il a poursuivi cette œuvre de témoignage au-delà du livre lui-même.
et vous-même la prolonger à travers cette formation avec Jean-Marie Fouilleul, notamment, qui sera là dans cette lecture que l'on va écouter sous peu au Saïkwachi. Est-ce que vous pourriez nous parler de la rencontre que vous avez faite avec Jean-Marie et notamment avec cet instrument, le Saïkwachi, qui est la flûte japonaise traditionnelle?
Oui. Oui, oui, tout à fait. On a eu le plaisir de se rencontrer au Lieu Jaune, à Tintaignac, à l'occasion d'une lecture poétique hein, de différentes personnes qui s'étaient retrouvées là autour de la revue Silex. Et j'ai eu le bonheur d'entendre pour la première fois Jean-Marie, alors que j'étais en train de lire. On ne se connaissait pas et tout d'un coup, j'ai entendu voilà, le son de la flûte. Et voilà, ça m'a donné l'envie de prolonger cet échange et cette complicité. Et on lui a proposé naturellement de nous joindre à nous pour les quelques lectures là que nous avons faites à l'occasion de cette commémoration.
Mm-hmm. Oui, et puis ça, moi, ça m'a d'autant plus touché que... Pardon. Que, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller souvent au Japon, et notamment à Hiroshima, et que je me suis retrouvé dans ce mémorial, en fait, à Hiroshima, qui est vraiment un lieu, en fait, où, on a juste pas... Enfin, c'est très difficile d'y rester, en fait, parce qu'on est face à une misère et une souffrance terrible, en fait. Donc, c'était aussi une manière de parler en fait de cette expérience que moi-même j'avais avec simplement vraiment humblement traversé donc en allant voir ce musée à Hiroshima quoi. Donc voilà, c'est...
Et donc la rencontre avec aussi donc la flûte japonaise, on peut le dire, qui est quand même l'instrument traditionnel avec une sonorité très particulière.
Oui, ça fait partie. En fait, il y a quelques instruments comme ça qui, dès qu'on les entend, qui nous font voyager directement au Japon. Enfin bon, le sakuhachi évidemment, le koto et puis et le shamisen. En fait, c'est vraiment les trois instruments qui sont le plus dans la musique à la fois populaire et pas que populaire, la musique aussi savante japonaise, qui ont vraiment une présence, en tout cas au-delà des frontières du Japon, quoi.
Très bien. Cette formation se propose dans différents lieux. Vous avez parlé du Lieu Jaune. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques lieux où vous avez joué, où vous allez pouvoir jouer aussi ?
Oui, nous avons joué à Ilion, donc dans les Côtes d'Armor, et puis aussi à la médiathèque de Dole de Bretagne, donc le 6 août exactement, donc vraiment le jour anniversaire. Eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres dates. Nous avons joué aussi, mais ça, c'est un peu plus loin dans la Loire, au mois d'août. Voilà, mais si effectivement des propositions sont faites, on peut tout à fait refaire cette lecture. On la fera évidemment avec plaisir. Quoi.
On l'a joué aussi au Lieu Jaune, à Tintignac. Mmh. Donc c'est oui. Voilà, un endroit aussi où on s'est rencontrés, donc c'était un peu c'était bien de pouvoir revenir dans ce lieu pour un autre projet.
Très bien. Eh bien, nous allons écouter sans plus attendre cette lecture musicale intitulée « J'avais 6 ans à Hiroshima », extrait eh bien, tout simplement du texte du même titre de Keiji Nakazawa. Merci à vous, Michel Gendarme, Irène Cerchetti et Jean-Marie Fouilleul pour cette lecture que vous allez nous proposer sans plus attendre sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com dans l'émission Résonance. C'est parti.
Décembre 1944. Je n'ai que 6 ans, je rêve souvent de riz blanc. on a remplacé le riz par quelques haricots, nous avons faim. Quand notre chat Kuro capture un poisson ou un oiseau, nous le poursuivons, mon petit frère et moi, pour lui voler sa proie. Nous en venons même à chasser les sauterelles pour les griller en brochettes et les manger avec plaisir. Nous passons l'essentiel de notre temps à chercher le moyen de remplir nos estomacs.
1945, nous pleurons de faim et de douleur. Des abcès nous viennent aux jambes, nous ne trouvons rien pour nous soigner. Notre père nous emmène au bord de la mer qui est assez proche. On dit que l'eau de mer guérit les abcès. Évidemment, il n'en est rien. Notre mère nous pique avec des aiguilles pour extraire le pus. La douleur devient insupportable.
Un jour, mon frère aîné est mobilisé pour travailler dans une usine de la marine. Un autre de mes frères part dans un temple à la campagne. Je l'envie car on mange mieux à la campagne et l'on y est mieux protégé de la guerre. Malheureusement, je suis trop jeune pour partir. Je dois rester à la maison avec mon petit frère Susumu et ma sœur Eiko, 12 ans, de santé fragile. Bien vite, mon frère nous écrit pour nous raconter son calvaire dans le temple. Le premier jour, il a reçu un repas correct, un seul, et ce fut le dernier. Très vite, la famine a repris ses droits. Les enfants pleurent la nuit, certains s'évadent. Mon frère semble si malheureux que mes parents se demandent s'ils ne doivent pas le récupérer.
Un jour, maman nous annonce qu'elle attend un nouveau bébé pour le mois d'août. Dès lors, nous ne cessons de nous demander si ce sera une fille ou un garçon. Plus le ventre de maman s'arrondit, et plus nous parlons du bébé, on oublie tout.
Les fameux B-29 bombardent notre pays. Tokyo, Osaka, Fukuoka sont en grande partie rasés. Les maisons de bois brûlent comme des torches. Les gens parlent maintenant ouvertement de défaite. Le gouvernement mobilise grands et petits et les arme avec des lances de bambou. Notre père sourit tristement. « Ces lances de bambou sont dérisoires, » gronde-t-il avec son bon sens habituel. « Les gens croient pouvoir combattre les mitrailleuses américaines avec ces bâtons. Nous serons tous tués. » Maintenant, les B-29 survolent souvent Hiroshima, mais n'attaquent jamais. Ils détruisent les villes proches. Hiroshima reste intacte. Tout le monde se demande pourquoi. Les rumeurs les plus étranges circulent.
Le jour se lève et je me sens mal. Toute la nuit, les sirènes nous tiennent éveillés. Lors de chaque alerte, il faut se lever, se cacher dans un abri. Je ne veux plus me lever, mais ma mère me frappe sur la tête en criant que nous allons mourir si nous restons là. Pas un jour, pas une nuit sans une alerte. Nous manquons de sommeil, l'épuisement nous gagne. Et le ciel d'Hiroshima reste immuablement bleu. La grande, la belle lumière du soleil d'été souligne le paysage de collines qui ondulent autour de la ville. Vers 7 heures, toute la famille se rassemble pour le petit déjeuner. Soudain, les sirènes hurlent. Tout le monde est surpris.
C'est rare le matin, remarque mon père. Toujours inquiète, ma mère nous pousse vers l'abri du quartier. Nous apercevons quelques avions. Sans doute des avions de reconnaissance, nous disons-nous avec mon frère. Et nous admirons ce petit nuage métallique blanc scintillant sur le fond bleu du ciel. Les 400 000 habitants d'Hiroshima s'activent maintenant dans les quartiers. L'alerte les dérange à peine. Encore une fois, les grands vols de B-29 si redoutés n'arrivent pas. Les tramways reprennent leur sarabande.
J'ai pris mon cartable, salué ma mère qui étendait du linge sur la terrasse du premier et mon père qui travaillait au rez-de-chaussée. Eiko m'a conseillé de partir devant car elle serait en retard. Mon petit frère Susumu m'a demandé de rentrer le plus tôt possible pour aller jouer à la rivière. Il avait découvert un bateau extraordinaire. Je pars donc en classe avec des copains du quartier. Je m'apprête à franchir le portail de l'école quand la mère d'un ami m'appelle. Je m'approche d'elle, à côté d'un mur épais. En lui parlant, je regarde le ciel. Un B-29 survole le centre-ville. « Madame, c'est un B-29 ?»« Bizarre, je n'ai pas entendu l'alerte. » Soudain, comme la foudre, un éclair gigantesque envahit le ciel. Une boule géante, fulgurante, rouge, blanche, incandescence absolue. Je perds connaissance. Enola Gay, le bombardier maudit, vient de lâcher furtivement sa bombe atomique.
J'ouvre les yeux. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Le ciel est noir. J'essaie de soulever ma tête, mais je ressens une douleur à la joue droite. Je passe ma main sur mon visage et en retire un clou qui m'a déchiré la chair. Je bouge un peu, cherchant à me lever, mais mon corps est coincé sous des pierres, des briques, des branches d'arbres et des morceaux de bois. Je vois le mur de l'école pencher dangereusement au-dessus de moi. Je rassemble toute mon énergie et réussis à m'extraire de mon lit de décombres. Instinctivement, je cherche mon cartable et mon chapeau anti-éclat. Toujours tâtonnant, je regarde vers la ligne de tramway toute proche.
J'aperçois la mère de mon copain renversée sur le dos. Son corps est totalement carbonisé. Ses cheveux, en brûlant, ont frisé. Des lambeaux de vêtements entortillés autour de son cou et de sa taille flottent comme des algues dans l'eau. Au milieu de son visage calciné, ses yeux blancs semblent me regarder avec effroi et colère. Je marche jusqu'au milieu du boulevard. Je ne retrouve plus rien du paysage familier. Hébété, je contemple une espèce de toile d'araignée, enchevêtrement de fils électriques et de poteaux jetés au sol, massacrés. Les gros fils du téléphone entourent un pylône pareil à des serpents grillés. Toutes les maisons, écrasées comme par un coup de fouet monstrueux, véritables dragons venus du ciel, ondulent comme des vagues au bord du boulevard.
Le ciel se remplit d'une fumée grise. On dirait des gouttes d'encre de Chine se diluant à la surface de l'eau. De gros oiseaux tournoient en désordre. Je réalise vite que ce sont des morceaux de bois et de tôle qui retombent. Parmi les maisons détruites, des flammes rouges vifs jaillissent ici et là. L'incendie se répand, file d'une poutre à l'autre avec une allure élastique implacable de reptile à 100 têtes. Inconsciemment, je me dirige vers ma maison. J'ai l'impression de ne pas avancer. Soudain, entre deux bouffées de fumée hideuse, j'aperçois des gens, des ombres, 5 ou 6 femmes en haillons. En m'approchant d'elles pour leur parler, je vois leur corps criblé de morceaux de verre. L'une d'elles a le côté droit hérissé de sortes de fléchettes. Elle devait se trouver près d'une fenêtre. Une autre a les paupières clouées par des tessons tranchants. Aveugle, elle marche en tendant les bras devant elle. Soudain, une femme aux cheveux poussiéreux et défaits retient mon attention. Ses seins étrangement bleus émergent de ses vêtements déchirés. À chacun de leurs pas, j'entends le verre teinter.
Je reprends ma marche vers la maison. Sur le côté gauche du boulevard, des gens, noircis, quasi nus, restent assis, les yeux fixés vers le ciel, hagards. Je ne peux pas distinguer si ce sont des hommes ou des femmes. Ils se précipitent autour d'un tuyau éventré qui laisse échapper un filet d'eau. Ils se versent l'eau sur la peau et s'extraient les éclats de verre. Le sang coule. Les plus brûlés cherchent désespérément à atteindre l'eau en se traînant sur leurs genoux déchirés. Tous se déplacent machinalement, sans bruit, sans un cri de douleur. On dirait des larves d'insectes.
Tout à coup, j'entends une explosion. Je me rends compte que j'arrive chez moi. Les maisons brûlent. La rue s'est transformée en cheminée. Un immense océan de feu engloutit le quartier. Je m'enfuis.
De nouveau sur le boulevard du tramway, j'aperçois des formes humaines. Elles bougent. Une véritable procession de fantômes avance sans but ni raison. Nus, la peau en lambeaux, de chaque blessure suinte un sang grisâtre, desséché, cuit. Quelques-uns avancent tels des animaux, en tenant leur ventre d'où sortent leurs intestins. D'autres ont un œil à demi arraché, le globe blanchâtre pend sur la joue. Un à un, ils s'écroulent. J'en découvre d'autres, accrochés aux arbres, transpercés par des branches cassées, pareils à des grenouilles ou des petits poissons capturés par des pigrièches. La peur m'envahit. Je suis tout seul. L'angoisse me fait hurler. Papa, maman.
La peur qui m'étreint à ce moment-là ne m'a plus jamais quitté depuis. Par chance, une voisine m'a trouvé. Kaï-chan, ta maman est à la station, va vite la voir. J'essaie de courir, mais la foule se déplace lentement et me ralentit. Je constate alors une chose bizarre. Dans cette multitude à demi nue, noircie par le feu et la fumée, pendent et se mêlent des lambeaux de vêtements brûlés et de peaux grillées. Seules les chemises et les pantalons blancs semblent intacts. Cela donne l'impression que ces fantômes blancs avancent seuls. Je cherche ma mère des yeux avec anxiété. Je l'aperçois enfin et laisse éclater ma joie. Je m'approche. Elle est allongée sur le trottoir, l'air absent. Autour d'elle, quelqu'un a posé des casseroles. Nous nous regardons sans mot dire. Elle serre très fort contre son cœur un coupon de tissu malpropre. Très fort, tendrement. Je me penche. Un tout petit bébé est là, fragile, surnaturel dans ce chaos. Ma mère a perdu son gros ventre. Quand le bébé est-il né ? Quelqu'un connu a certainement aidé ma mère. Je ne me pose plus de questions. Une nouvelle vie est là, ma petite sœur. Il faudra la soigner, la nourrir. Nous l'appelons Tomoko.
Ma mère raconte. J'étends du linge sur la terrasse. La bombe explose au moment où je pénètre sous l'avancée du toit de notre maison. C'est ce morceau de toit qui m'a sauvée. Sinon, l'éclair m'aurait brûlé vive. Par chance, je n'étais pas dans la chambre du premier, car là, le toit, en s'écroulant, m'aurait écrasé. En fait, la terrasse s'est, pour ainsi dire, envolée avec moi, puis est retombée miraculeusement derrière la maison, comme un gros avion atterri en catastrophe. J'ai tout juste été étourdie. En reprenant mes esprits, j'entends les cris de Susumu, ton petit frère. Je me lève et réalise que je suis bien vivante. Je cours vers Susumu, mais il est pris au piège sous un amas de poutres. Je vois ses pieds battre l'air. Ton père gémit lui aussi, enseveli sous les décombres. Quant à Eiko, elle ne donne pas signe de vie. Bien que gênée par mon ventre, j'essaie de dégager ton père et ton frère qui crient sans cesse. Mais l'enchevêtrement des poutres, des grosses tuiles et des morceaux de torchis me rend la tâche impossible. Plusieurs personnes m'aident en vain. Je touche les jambes de Susumu. Soudain, le feu prend dans les ruines de la maison. Je hurle, je tiens les jambes de Susumu dans mes mains. Je sais mon mari tout proche, prisonnier du brasier. Je ne les abandonnerai pas. Je veux mourir avec vous. Des voisins ayant entendu mes cris m'ont sorti de cet enfer. Madame Nakazawa, venez, n'insistez pas. Vous devez rester en vie. Ils m'ont sauvée, mais je n'oublierai jamais les hurlements de Susumu et de ton père.
Elle se souvenait du drame en essuyant une larme et en disant « Eiko a dû mourir sur le coup, cela me console un peu. » L'épuisement a finalement raison de mes jeunes forces. Je me tapis dans un recoin sur le trottoir. La nausée me griffe alors l'estomac. Je vomis un liquide jaunâtre. Je suis incapable de bouger. Je regarde autour de moi. Des gens déambulent toujours. Je les vois se diriger vers les potagers. Ils ramassent de grandes feuilles de patates douces ou d'autres légumes pour les appliquer sur leurs brûlures. La fraîcheur des plantes calme peut-être leur douleur. Les champs proches sont rapidement envahis. Sous le ciel, soudain, le ciel s'assombrit. Des nuages noirs s'amoncellent au-dessus de la ville. De grosses gouttes commencent à tomber. Elles font un bruit sourd. Une goutte roule dans ma main, elle brille, on dirait de l'huile. Je n'en crois pas mes yeux. Cette pluie n'est pas ordinaire, elle est noire. Au bout de quelques minutes, j'ai le visage tout gras. La pluie noire souille mes vêtements. Une rumeur me parvient alors. Les Américains jettent du gazole du ciel pour mieux finir de brûler Hiroshima. Je m'endors blotti auprès de ma mère en regardant la rue brillante tachetée de noir. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là.
Je me réveille en pleine nuit, je me sens mal, toute la ville brûle. Le feu monte à l'assaut du ciel, semblable à une cascade renversée. Nous nous recroquevillons au pied d'un muret de pierre qui entoure un potager pour nous protéger de la chaleur. Je m'endors à nouveau en regardant le ciel rouge. Un bourdonnement me tire bientôt de mon sommeil. Je me demande d'où vient ce bruit qui enfle. J'ai l'impression d'entendre un essaim d'abeilles. Complètement réveillée, j'écoute attentivement. J'entends alors un seul mot prononcé par des centaines de blessés. Missou.
Missou.
Missou. Missou. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Ma mère, réveillée, elle aussi réagit. « Pauvres gens, va chercher de l'eau pour eux !» Nous faisons plusieurs tours à l'aide d'un vieux casque et d'un bol cassé pour donner de l'eau aux malades. Quand nous approchons, certains se lèvent brusquement, comme s'ils sentaient l'eau. Ils avalent quelques gorgées à toute vitesse, puis retombent. Ma mère demande à l'un d'eux ce qui lui arrive et le secoue en lui parlant. Il est mort. La même scène se reproduit plusieurs fois. Les gens supplient pour avoir un peu d'eau, boivent et meurent. Ma mère et moi, nous nous sentons perdus. Une nouvelle rumeur nous apprend bientôt qu'il ne faut pas donner d'eau aux brûlés, car ils meurent tout de suite après avoir bu. Nous cessons donc d'en donner, croyant qu'elle est empoisonnée. Aujourd'hui, je m'interroge encore. Peut-être aurait-il mieux valu adoucir leurs derniers instants avec un peu d'eau.
Le 7 août. Le soleil est déjà haut quand la chaleur me réveille. Les secours commencent à s'organiser. On entasse les cadavres au bord des potagers. Dès qu'ils libèrent un peu de place, d'autres victimes viennent mourir là et grossir l'état. Un pompier lance un appel pour une distribution de nourriture. J'attends un vieux casque à la main. Du riz. On nous apporte du riz, ce beau riz blanc dont j'ai tant rêvé. Mais je n'ai aucun appétit. Je vomis sans arrêt. Ma mère est comme moi, mais elle se force à manger. Je dois allaiter mon bébé. pendant deux jours, nous restons là, torturés par l'odeur et le soleil. Partons, dit soudain ma mère, son bébé dans les bras. Allons chercher de l'ombre dans les collines. Tout le long du chemin, des morts par milliers, le soleil, la pestilence. En traversant une plaine proche d'une rivière, une fumée âcre d'où se dégage une odeur de cheveux brûlés nous fait hésiter. Des camions militaires apportent des cadavres que l'on incinère là, au milieu des champs.
Nous allons chercher de l'ombre dans la colline Saramaya. Nous avançons profondément dans le bois pour essayer de trouver un refuge à l'ombre d'un arbre. Nous n'en trouvons pas un qui ne soit déjà occupé par des blessés. Nous décidons de repartir. Avant de reprendre le chemin, je les observe. Ils ont fabriqué des baguettes en bois à l'aide desquels ils semblent se piquer les bras et les jambes. Des vers, des larves de mouches, des asticots ont envahi leurs plaies. Une douleur me gagne à l'arrière de la tête et dans le cou. Je touche l'endroit le plus sensible, la peau s'enlève, du pus coule. C'est seulement à ce moment-là que je réalise que je suis brûlée moi aussi. Au pied de la colline, l'une des premières tentes de secours commence à accueillir des malades. « Ça tombe bien, tu vas pouvoir te faire soigner », me dit maman. « Bien sûr, il n'y a déjà plus de place. Des corps couverts d'une sorte d'huile blanche sont allongés partout. Je parviens tout de même devant un médecin militaire qui, faisant la moue et claquant la langue, m'explique qu'il est inutile de rester là, car il n'y a plus de médicaments. La plupart des blessés s'écroulent et se replient sur eux-mêmes avant de mourir. Je n'ai plus peur. Les corps étendus par terre deviennent pour moi rien de plus que des morceaux de bois. Ma mère s'approche d'une personne qui applique du jus de concombre sur ses brûlures. C'est très bon le jus de légumes. Essayez, vous verrez.
Les soldats ramassent les morts, ils les tirent sur le bord des rues et des chemins, par la tête ou par le ventre, à l'aide de crochets de pompiers qu'ils piquent, comme des hameçons géants à même les cadavres. Tous ces corps me font penser aux alignements de thon quand les bateaux de pêche arrivent au port.
4 jours après le bombardement, du pus s'écoule toujours de mes blessures. Assis en tailleur, j'applique du jus de concombre et de melon sur mes plaies. Tout à coup, quelqu'un s'arrête juste devant moi. Je lève le nez, c'est mon frère.
Mon frère creuse là où se trouvait l'entrée de notre maison. Je gratte. Quant à moi, les morceaux de tuiles avec un bout de bois à moitié brûlé. Sous l'effet de la chaleur intense, la terre, telle de la cendre, est devenue toute blanche. Soudain, je dégage une partie de boîte crânienne d'enfant. Je crie « C'est Soussoumou !» Mon frère aîné se précipite, ramasse le crâne et me le met dans les mains. Le crâne de Susumu est tout blanc. Je le trouve beau. Le soleil chauffe très fort, mais j'ai froid et je tremble. J'ai l'impression d'avoir des glaçons dans le dos et que mon sang coule à l'envers.
J'ai trouvé, s'écria à son tour mon grand frère. Dans les décombres de l'atelier paternel, il a découvert un autre crâne, d'adulte celui-là. C'est notre père, dit-il en me le donnant. Je me remets à trembler. J'ai pris le crâne, j'ai nettoyé les traces noires autour des orbites, sorte de larmes pétrifiées par le feu, puis je l'ai posé dans le seau. Nous cherchons maintenant ma sœur Eiko. Nous trouvons enfin son crâne, puis son squelette. Les paroles de ma mère me reviennent. Elle n'a pas dû souffrir longtemps. Épuisés, nous nous apprêtons à repartir avec notre seau rempli de crânes. Je jette un regard vers l'abri du quartier. À l'entrée, je vois un chat. Je reconnais notre Kuro. Il se cachait toujours là.
Les plaies purulentes de mon cou, les abcès sur mes jambes m'inquiètent. Ma mère s'épuise à trouver un peu de nourriture. Il n'y a plus rien nulle part. Un jour, l'une de ses sœurs arrive chez nous. Elle semble très malade. Son mari et ses trois filles ont disparu. Elle les recherche avec l'énergie du désespoir. Elle vient juste d'apprendre que sa fille aînée s'est peut-être réfugiée en grande banlieue. Elle nous demande de passer une nuit chez nous avant de repartir en quête de sa fille. Elle s'allonge à côté de moi. Elle s'endort d'épuisement et ronfle à m'en faire peur. Soudain, j'entends quelque chose couler. Toute la famille se réveille. Ma tante baigne dans un liquide rougeâtre mélange de sang et d'excréments. Elle ne s'est rendue compte de rien. Elle demande pardon en essayant de nettoyer autour d'elle avec un chiffon. Elle ne ressentait aucune douleur avant de s'endormir.
Le lendemain matin, ma mère a voulu l'empêcher de reprendre la route. « Tu es trop faible pour marcher encore, reste ici te reposer. » Mais elle voulait retrouver sa fille. 3 jours passent. Ne la voyant pas revenir, ma mère part à sa recherche, le bébé attaché dans le dos. Mon frère et moi l'accompagnons. Nous ne retrouvons ni notre tante, ni sa fille. Fatigués, nous nous asseyons devant un temple. Toujours curieux, je franchis le portail pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. On y incinère des monceaux de cadavres. Les os récupérés forment une véritable montagne. Ma mère regarde à tout hasard les messages épinglés sur les poutres du temple. Un cri. Le nom et l'âge d'une personne incinérée. C'est ma tante.
Ma mère avec son bébé, mon frère et moi marchons sous la pluie sur le sol désolé de la ville en cendres. Le crépuscule approche. Soudain, on nous attaque. Le tablier blanc de ma mère devient tout noir, ainsi que la serviette où dort le bébé et ma chemise. Nous ne comprenons rien à ce qui nous arrive. Quand la sensation des coups cesse, nous voyons des vagues noires onduler sur nos vêtements. Ce sont des mouches. Un nuage de grosses mouches gavées, répugnantes, qui nous confondent sans doute avec leur pitance.
Ma mère est malade. Elle souffre. Elle ne peut plus bouger. Je pars à la pêche avec mon frère, à la mer. Nous ramassons des prairies magnifiques. Je remonte jusqu'au pont Ayoibashi et plonge pour attraper des crevettes. Elles sont très grosses, elles aussi. Le fond est blanc d'ossements humains. Les crevettes nagent au milieu de ce cimetière géant.
L'école a repris. Nous manquons de tout. Les cours se passent souvent dehors. Nous partons un matin vers les terrains vagues du terminus de la ligne de tramway. Je venais souvent dans cet endroit avec Aiko et Susumu pour attraper des sauterelles. Je pense à eux. Il y a des tas d'os de plus de 2 mètres de haut. Des petits durs du quartier s'emparent de quelques crânes et jouent à se les lancer. Des bulldozers et des rouleaux compresseurs recouvrent les eaux avec de la terre et compactent le tout comme pour faire une route. Des militaires américains parcourent le chantier en jeep. Des vieillards prient à genoux. Ce lieu deviendra une cour d'école. J'ai horreur de cette école.
Nous vivons à 6 dans une seule pièce. La faim ne nous quitte pas. Ma mère doit cesser d'allaiter ma petite sœur Tomoko. Elle est adorable. Je la porte toujours sur mon dos, même à l'école. Un jour, pendant que je prépare à dîner, elle pleure, impossible de la consoler. Puis les pleurs diminuent et cessent. Nous finissons rapidement notre maigre repas et je vais m'allonger à côté de Tomoko. Je prends sa petite main. Elle est toute froide. J'appelle « Maman ». Elle est morte, soupire ma mère en prenant la petite. Tomoko, née sous le feu atomique, a survécu 4 mois.
Une voiture étrangère s'arrête dans la cour. À la récréation, toute l'école se précipite pour admirer la belle bagnole. Sur la plaque d'immatriculation, 4 lettres, A, B, C, C. Atomic Bomb Casualty Commission. L'armée américaine est arrivée 1 mois après l'explosion et a installé un bureau dit ABCC dans un coin discret de l'hôpital de la Croix-Rouge japonaise. Sa mission est simple, il ne s'agit pas de contribuer à soigner les victimes, mais de collecter un maximum d'informations scientifiques sur les différents effets de la bombe atomique constatée sur le corps humain. Dès le 19 septembre 1945, la presse est censurée pour tout ce qui concerne la bombe et nos maladies. ABCC poursuit sa collecte en silence.
Thank you.
Octobre 1966. La terrible nouvelle arrive, ma mère nous a quittés. Je file à Hiroshima. Mon frère m'attend à la gare, tremblant de colère. ABCC a encore voulu effectuer des prélèvements sur le corps de ma mère. Mon sang ne fait qu'un tour. Ils sont venus avec des fleurs et de l'argent. Mon frère raconte comment on lui a expliqué qu'il s'agissait de recherches importantes pour la médecine, que l'on ne toucherait que l'intérieur, que le corps serait rendu propre après les prélèvements et rempli de coton. Il a refusé l'autorisation nécessaire. Je les aurais, moi, chassés avec des claques. Je ne pardonnerai jamais à cet organisme. Je suis scandalisée une fois de plus par cette façon d'arriver, bien informée, quelques heures après la mort d'un irradié, un Ibakusha. Leurs fichiers sont d'ailleurs à jour, car je reçois aujourd'hui encore leur courrier à Tokyo.
Pendant l'incinération de ma mère, quand la petite fumée commence à s'élever dans le ciel, je revois tous les bûchers, tous les os des morts d'Hiroshima, ceux de la mer et du fleuve, et ceux de mon père, de mon frère Susumu, de ma sœur Eiko. Après la crémation, la famille doit récupérer les os avec des baguettes de bambou, ainsi que les cendres, puis les déposer dans une urne funéraire. Nous n'avons rien trouvé. Même le crâne était tombé en poussière. Le pauvre corps irradié de notre mère s'était consumé de l'intérieur depuis ce jour fatal du 6 août 1945.
Et moi, j'avais 6 ans à Hiroshima.
C'était « J'avais 6 ans à Hiroshima », un texte de Keiji Nakazawa, lu par Michel Gendarme, Irène Cerchetti et interprété à la flûte japonaise par Jean-Marie Fouilleul. Merci à vous de nous avoir proposé cette lecture musicale en direct sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Une lecture donc dans cette émission Résonance que vous pourrez retrouver donc sur le site internet de la radio, je le répète, le www.radio-univers.com. C'était Résonance sur les ondes d'Univers. Retour au programme Jazz. Merci à vous d'avoir écouté et de nous avoir proposé cette lecture. Salut.
Merci.